L'émission qui va suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Pour se promener autour de chez moi, le week-end, il faut chanter à voix haute pour que les chasseurs environnants sachent qu'on est des humains et qu'il ne faut pas nous tirer dessus. Pas plus tard que la semaine dernière, un chasseur a pointé son arme sur moi en pensant que j'étais un sanglier. C'est un peu vexant de se faire confondre avec un sanglier. Et j'ai tracé ma route. C'est pas drôle.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
Bonjour, bienvenue aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Nous sommes près d'un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, la plus grande révolte sociale depuis mai 68 en France. Et je vous propose de réécouter notre enquête reportage qui n'a pas pris une ride sur cette partie du pays à hauteur d'adolescence. Aujourd'hui donc, grandir dans la diagonale du vide. Troyes, Bourges, Limoges, Clermont-Ferrand. C'est une diagonale qui zigzague en fait un peu sur la carte de l'Hexagone. Notre reporter Alice Milot est partie à la rencontre de ces jeunes que l'on n'entend jamais dans les médias. Ils sont 60% d'une génération à vivre dans la France dite périphérique, c'est-à-dire dans la France des zones rurales, périurbaines ou pavillonnaires, de villes petites ou moyennes. Une jeunesse silencieuse, résignée, qui n'intéressait personne, encore moins les politiques, jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. Ils vont vous raconter leur enfance, loin de tout service, et leur choix d'orientation scolaire et professionnelle, trop souvent limité. Pas vraiment pauvre, mais tout le temps entravé par le manque de moyens financiers. Leur point commun à tous, c'est qu'ils sont dépendants de la voiture de leurs parents, prisonniers d'un territoire qu'ils aiment. Ils sont les enfants de la diagonale du vide, celle qui fait fuir tout le monde, même le train.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, votre train va desservir la gare de Châteauroux. Attention, dans cette gare, la descente des voyageurs s'effectue côté droit dans le sens de la marche. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'arrêt complet de notre train en gare de Châteauroux avant de descendre de voiture. Nous vous souhaitons une excellente journée.
Bonjour Alice Milot.
Bonjour Emmanuel.
Donc c'est à Châteauroux, dans l'Indre, que vous êtes descendu du train.
Absolument, à Châteauroux, c'est à 2h20 de train de Paris. C'est le chef-lieu de l'Indre et c'est aussi là que se trouve la principale gare du département qui permet de se rendre ensuite en voiture dans les nombreuses villes, villages, bourgs et hameaux de ce territoire très rural. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existait auparavant beaucoup plus de gares dans l'Indre, mais elles ont progressivement fermé ces dernières années. De 6 lignes ferroviaires, il n'en reste plus que deux. Et aujourd'hui, la voiture est devenue obligatoire.
Prendre à gauche sur Avenue de la Liberté, D32, panneau Verdunet, Chaillac, puis votre destination se trouvera sur la droite.
Il est 6h du matin, il fait nuit et je devine des champs, des forêts et des étangs derrière mon pare-brise. Je roule depuis près de 1 heure pour me rendre chez José, 17 ans, lycéen en terminale scientifique. José est un grand gars mince, fils unique. Il habite depuis toujours avec ses parents à Lignac, un village de 500 habitants. J'arrive pile pour le petit déjeuner.
D'habitude, je me réveille à 6h, je prends ma douche. Donc après, je descends pour manger avec mon père, par exemple. Pour prendre le car à 7h10, je suis censé y être à 7h, on part à 7h10. Mais en fait, on est à peu près à une trentaine de kilomètres du lycée. Et du coup, vu que je suis un des premiers, mais si ce n'est le premier, sur la ligne, c'est moi qui parle plus tôt, grosso modo. Je m'y suis fait déjà depuis la seconde, mais au début, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément facile.
Du coup, là, t'as 1 heure de car le matin, 1 heure de car le soir.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Donc bon, ça fait du 7h à peu près.
7h du matin, 7h du soir.
C'est ça, ouais. Ça fait en tout, oui, ça fait le tour du cadran.
Et ça fait une journée de 12 heures.
Ouais.
C'est parti. Bon courage.
Ouais.
C'est bon, t'as le tout.
Ouais.
C'est parti. Bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Là, on est en train de marcher dans les rues de Lignac. Donc il n'y a personne à part un chat roux.
De toute façon, ici, on peut marcher au milieu de la route. Hein. Alors, le matin, ouais. À Lignac, on a à peu près moins de 500 habitants sur toute la commune, je crois.
Et il y a des commerces?
Oui, il y en a 2-3. Il y a un petit bar tabac qui est assez pratique parce qu'il y a une petite épicerie avec.
Ça y est, on est arrivé sur la place du village, là. Il y a le car qui est déjà là.
Bonjour.
mademoiselle.
Bonjour.
Vous êtes montée à Chaillac ?
Oui, je vais en voiture, mais là, mes parents, ils travaillent, donc c'est une maman d'une copine qui est venue m'emmener.
Tu prends la voiture pour venir prendre le car pour aller au lycée ?
Oui.
Parce que t'habites où, toi, exactement ?
Dans un lieu dit.
Il y a combien de maisons ?
Une trentaine.
Tu l'as jamais raté, le car ?
Si, plusieurs fois. J'aime pas beaucoup les réveils. Vu que je rentre à 7h le soir, il faut que je mange, que je prenne ma douche, je fasse mes devoirs, donc je me couche assez tard.
Mais le reste du temps dans ta vie, tu fais comment pour t'organiser pour tes déplacements alors ?
Mes parents, ils m'emmènent, donc sauf quand ils travaillent.
Ils font quoi ?
Mon père est chauffeur routier et ma mère, elle travaille à une usine de pâtisserie. Ma mère, elle travaille de nuit et elle rentre à 5h du matin et mon père, il travaille toute la semaine du coup.
Et là, t'as quel âge ?
J'ai 16 ans.
Donc du coup, le permis, c'est pour dans 2 ans, c'est ça ?
Oui. C'est mon rêve de conduire une voiture. J'ai un vélo, mais c'est que si mes copines habitent à Saint-Benoît, ça fait un peu loin quand même.
Parce que ça a combien de kilomètres ?
Environ 15 kilomètres de Chaillac. Donc à vélo, avec des côtes.
Et la mobylette ?
Oh non, pas de mobylette pour moi.
Pourquoi ?
Parce que c'est trop dangereux. Il y a eu trop d'accidents sur la route.
Et là, il y a un soleil rouge magnifique.
Oui, c'est comme ça tous les matins. C'est pour ça que j'aime bien mettre ma musique et puis regarder en même temps. C'est des champs, des arbres, des petites routes, quelques petites maisons par-ci par-là. Un château à droite, si vous regardez bien. La nature qui commence à se réveiller.
C'est un territoire auquel tu es attaché.
Oui. Bah, en bas de chez moi, j'ai un chemin qui descend jusqu'à une rivière. Et en bas, il y a la forêt, il y a le chemin, la rivière, toute la nature, quoi. J'aime beaucoup écouter les bruits autour de moi, ça permet de se projeter un petit peu, on va dire, dans l'espace qui nous entoure.
On est presque arrivé, il y a carrément un embouteillage de cars scolaires. Bonjour.
Bonjour, Catherine Papuchon, proviseure de la cité scolaire Rollina, Argenton-sur-Creuse.
Vous connaissez quel est le pourcentage de vos élèves qui arrivent en car de ramassage scolaire ?
80%. Donc ils font en moyenne 40 minutes de bus par trajet. Donc oui, ce sont des grandes distances que parcourent nos élèves et ils sont relativement fatigués dès le matin en arrivant. Et les journées de travail sont extrêmement longues parce qu'ils finissent à 17h. Et certains qui participent à devoirs faits peuvent prendre aussi le bus de 18h. C'est-à-dire que nos élèves passent plus de temps dans l'établissement que chez eux la plupart du temps. Chez eux, ils s'y contentent d'y dormir et d'y manger, voilà.
Et ils font des journées de travail plus longues que celles de leurs parents.
Tout à fait, la plupart du temps, c'est le cas. Et souvent, les enseignants n'en ont pas vraiment conscience et ont tendance à charger aussi du temps de travail à la maison. Et ils ne se rendent pas compte que les enfants ont peu de temps disponible.
Et pour ces élèves dont vous parlez, ils n'ont pas le choix parce qu'en fait c'est...
Nous n'avons pas le choix puisqu'il n'y a pas d'internat pour le collège et que notre internat lycée est réduit et que les coûts engendrés pour les familles n'est pas toujours acceptable.
Et qu'il n'y a pas d'autres lycées aux alentours.
Et il n'y a pas d'autres lycées aux alentours, voilà. Le flot des élèves qui rentrent, donc 600 élèves d'un coup, hein, 580 à peu près, voilà. Rangez-vous correctement avant de rentrer.
Alice Milot, vous êtes donc arrivée à la cité scolaire Rollina à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre.
Oui, alors Argenton, c'est une charmante petite ville de 5000 habitants. La Creuse y coule au milieu et la cité scolaire, elle, est perchée sur une colline. Argenton fait partie de ces villes qui perdent chaque année des habitants, comme tout le département d'ailleurs, alors que l'Indre est déjà l'un des territoires les moins peuplés de France, en 88e place sur 102 départements, un record que l'Indre partage avec ses voisins d'ailleurs, la Nièvre et la Creuse. Pas étonnant que tous appartiennent à la Diagonale du Vide. Alors qu'est-ce que la Diagonale du Vide ? Explication avec Hervé Lebras, démographe, directeur à l'UHESS.
La Diagonale du Vide, c'est une partie de la France qui d'abord est très peu peuplée, la densité est faible, et surtout qui continue de se dépeupler. Si vous voulez, pendant très longtemps, le monde rural s'est dépeuplé, mais c'était vrai dans toute la France. Et à ce moment-là, on parlait du désert français. C'était Paris et le désert français qui avait été un livre avec un certain succès. Et puis, progressivement, un certain nombre de régions ont cessé de se dépeupler. Et il est resté une large bande qui s'étendait à peu près des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, mettons sur 100 km de large. Un petit peu en zigzagant un peu autour du Massif central. Et un géographe dans les années 80 a baptisé cette bande-là assez justement la Diagonale du Vide. Et donc c'est un endroit où, du fait de la diminution de la population, il y a aussi diminution de tous les types de services, donc parmi lesquels les médecins, la poste, des services judiciaires, des commerces de détail, et regarde combien de temps on met en moyenne pour s'y rendre en voiture. C'est important, en voiture. Et la carte qui est publiée, qui est très intéressante, montre que pour la plupart des régions en France, on est assez proche des services. On est à entre 5-10 minutes de voiture. Et il y a une petite partie de France où on est à plus de 15 minutes. C'est pas énorme, mais c'est déjà 15 minutes, c'est pas rien. Ça veut dire que, puisque c'est une moyenne, certains services seront peut-être à 30 minutes de voiture, d'autres seront tout près. Et là, on retrouve presque exactement la diagonale du vide.
Des services donc loin des habitants, notamment les écoles, les collèges, les lycées. Alice Milot, vous avez suivi ces élèves qui n'ont pas d'autre choix que de prendre le car de ramassage scolaire chaque matin à l'aube. Certains, plus chanceux, vivent quand même à l'internat, en pension.
Oui, absolument. Alors, il s'agit au lycée Rollina à Argenton-sur-Creuse d'une minorité des élèves, hein, parce que les places sont limitées et que cela coûte cher pour les familles. Elles sont donc 25 filles à ne pas quitter leur lycée de toute la semaine. À 18h, après les cours, elles vont en études avec une surveillante pour faire leurs devoirs. Puis dîner, temps libre et à nouveau une heure d'études entre 20h et 21h. Mais le soir où je suis venue, la pionne était sympa, comme disent les filles, et donc l'ambiance était joyeuse.
Bah là, on est dans la salle de bain commune. Parce que bah, comme vous voyez, il y a 4 lavabos, 4 miroirs.
Faut prendre la douche comme à l'armée, enfin, c'est très rapide pour... Si on ne prend pas rapide, après, bah, des gens, bah, ils sont pas contents, parce qu'autrement, on finit trop tard, et puis les surveillantes, elles ont une heure à nous donner, après, on doit dormir.
Il n'y a plus de lumière.
Oh non.
Il
n'y
a plus de lumière, on est obligé de revenir. Donc, au fond, après, il y a le côté seconde, où il y a un dortoir de 6. Voilà, une chambre de 2, et un toilette, et une salle de bain avec baignoire, là-bas.
Et vos chambres à vous, c'est par là?
Et nos chambres à nous, bah, c'est à droite.
Pourquoi tu vis à l'internat, en fait?
Parce que je pense que scolairement, sans l'internat, j'aurais pas réussi. Chez moi, je sais, vu que j'ai accès à la télé dans ma chambre, j'ai mon téléphone, j'ai des enceintes, la musique, tout ça, j'aurais pas été dans de bonnes conditions pour travailler.
T'es vite distraite, en fait.
Voilà. Alors que là, avec les heures d'études obligatoires...
C'est 2 heures par soir, c'est ça?
C'est 2 heures par soir, mais nous, en tant que première, on a essayé de diminuer à 1. Mais ça m'oblige à rester concentrée, à aller sur mon objectif. Et puis d'un côté, je trouve que ça fait du bien de ressentir un peu le manque de la famille. De rentrer le vendredi soir et tout se raconter à table et tout, je trouve que c'est mieux. Alors que... Puis moi, étant mon père, étant routier, c'est pareil, il n'est pas là de la semaine. Le vendredi, on arrive, on pose tout, on parle tous ensemble et je trouve que c'est mieux, c'est plus convivial.
Vous avez une chambre qui est plutôt grande par rapport aux autres chambres.
Oui.
Mais bon, en même temps, elle n'est pas non plus immense. Elle doit faire à peu près 12 mètres carrés. Et puis, bah, vous avez un lit. Il y a 1 mètre qui vous sépare, 1,50 mètre qui vous sépare des deux lits. Bah, vous vivez quand même juste à côté.
Et des fois, ce n'est pas suffisant parce qu'on rapproche les deux lits.
Voilà. C'est les petits internats de campagne.
C'est ça. Je vois, moi, mon frère qui a été en internat en ville, c'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus strict, carré. Alors, moi, vraiment, je trouve que là, on a vraiment une liberté.
C'est aussi propice aux bêtises quand même l'internat.
Ah oui, totalement.
Par exemple pour les anniversaires, on met des œufs et trucs comme ça. C'est que des fois les pionnes ne sont pas très contentes. Bah c'était l'anniversaire de deux filles aujourd'hui, du coup il y a des gens qui ont emmené des œufs et ils ont cassé sur les têtes. Ou alors on met de l'eau froide sur les gens qui se prennent leur douche, mais voilà, ça reste pour les anniversaires.
Qu'est-ce que c'est que cette tradition?
Ça a été inventé une fois, parce qu'il y a une fille, bah, au début d'année, une fille qui c'était son anniversaire, on a mis de la mousse à raser, c'était le seul truc qu'on avait trouvé sur la tête. Et puis maintenant, ça, il y a toujours une tradition, quand quelqu'un fait son anniversaire, il a droit à quelque chose sur la tête.
Depuis le début de l'année, c'est arrivé d'avoir des coups de blues?
Le premier soir, ça a été, tout s'est bien passé, parce que voilà, on n'avait pas eu d'études, on était dans nos chambres, on découvrait un peu l'environnement. Par contre, dès le deuxième soir, ça a été des pleurs, j'arrivais pas à dormir... Voilà, j'avais besoin d'avoir ma mère au téléphone tout le temps. Après, voilà, c'est vrai que la seconde, bon, on est quand même assez jeune. Bah, je suis arrivée, j'avais 15 ans. Mais après, j'ai été vraiment épaulée par mes copines. Et c'est vrai qu'avoir ce petit groupe, ça m'a permis de pouvoir me séparer un peu plus de ma mère, ne pas l'appeler tous les soirs, Et ça nous fait des souvenirs mémorables.
Et vos parents, comment ils ont vécu ça?
Ah, c'était très dur, oui. Vu que je suis fille unique, je ne suis qu'avec ma mère, donc ça... Elle est aide-soignante dans une maison de retraite. Du coup, ça me faisait un peu bizarre de la laisser toute seule. Et même là, chaque semaine, le lundi, mardi, c'est très dur pour elle, parce que bah, toute seule à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, donc c'est assez calme. Mais bon, après, elle s'y fait. Puis même des fois, elle me dit, je commence à m'habituer au silence. Alors quand je rentre, des fois, faut pas trop faire de bruit, parce qu'elle aime bien le silence maintenant qu'elle a pris goût. Mais bon, au début, c'était dur, oui.
Milliards de voisins. C'est sur RFI.
Grandir dans la diagonale du vide en France, c'est le sujet d'aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. On voyage dans l'Indre avec vous, Alice Milo, un des départements français les moins peuplés de l'Hexagone et dans lequel la population continue chaque année de diminuer. Nous sommes donc à Argenton-sur-Creuse avec des filles, des garçons qui vivent avec le vent, avec les arbres, la pluie, les oiseaux.
On essaie de reprendre les choses en cours. Alors, vous vous souvenez, on avait bien mis quelles sont les dynamiques des territoires à faible densité et leurs atouts. Je vais vous demander de repérer quels sont les atouts de ce territoire et sur quoi ils misent. On y va ?
Bah oui, il n'y a pas grand-chose. Enfin, quand on sort à Argenton, on a vite fait le tour. On connaît déjà un peu tout, quoi. À part un parc et 5 kebabs, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ben, on sort et voilà, on s'assoit sur un banc et puis on parle.
Et qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, par exemple, de plus ?
Bah, faire comme bah, du bowling ou aller au cinéma, enfin dans un grand cinéma, parce que le cinéma d'Argenton, il est petit.
Encore à Argenton, ça va, il y a le train, on peut aller un peu où on veut, quoi. Dans mon petit village. Il y a un parc, un stade et il n'y a que ça, avec une petite boulangerie ouverte, pas tous les jours, une petite boucherie. Alors qu'en ville, il y a des gens et du coup, c'est cool. On peut faire plus de trucs. KFC, McDo, tout ça, ça c'est bon. Il n'y en a pas ici. Les magasins, tout ça. C'est dommage.
C'est la fin de la journée, c'est ça?
Oui.
Alors c'est quoi le programme?
En vrai, quand on est à la campagne comme ça, il n'y a pas grand chose à faire, mais quand on a grandi ici, on arrive à avoir une imagination. Alors, par exemple, l'été dernier, on a un parc près de notre carrefour qui est juste sur la Creuse, donc la rivière, et on avait volé des bottes de paille. On avait volé des bottes de paille, on les avait toutes entassées pour faire des grands plongeoirs avec les bottes de paille, et du coup c'était assez sympa. Sauf qu'après il y a le fermier qui est venu avec la fourche et c'était moins sympa. C'était quand même pas mal.
Moi je connais des gens pas loin qui ont peint des poneys.
Ouais, voilà.
Peint des poneys avec de la peinture.
Ouais, avec de la peinture.
Non mais sérieux, il y a des choses qu'ils ont pas en ville, c'est que nous on a les salles des fêtes pour fêter les anniversaires. On peut faire des soirées où on invite 100, 150 personnes facilement.
On peut dormir à Bellefeuille ou dans les tentes, dans les parcs et tout.
En plus, bah, par exemple, c'est beaucoup moins cher qu'en ville. Quand je vais sur Paris, je vois putain, le coca à 3,80. Le coca à 3,80, ça fait mal. Ici, tu demandes un coca, t'as pas l'argent, ils te font crédit, quoi. C'est à Paris, non? Puis même, on voit pas beaucoup de choses qu'il y a en ville où quand on est enfant, on n'a pas trop besoin de les voir. Comme par exemple, je sais pas, à Paris, les migrants ou des choses comme ça, quand on est enfant, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu mal.
Tu veux dire que vous vous sentez protégé de la misère du monde?
Oui, voilà. Par rapport à mes cousins qui étaient en ville, je me dis que j'ai quand même plus de chance d'être à la campagne.
Pourquoi? C'est quoi la vie à la ville?
C'est trop précoce. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop précoce.
Ouais. Précoce?
Ah oui, c'est précoce. Bah, c'est-à-dire que nous, on a fait des choses qui sont encore dans notre âge. Moi, je vois mes cousins, ils ont fait des choses qu'on a fait à 16 ans ou ils faisaient déjà à 13 ans. C'est...
Tu parles de quoi?
Alors, par exemple, il y a la drogue, il y a le sexe, les expériences sexuelles. Je vois les soirées qu'ils font, c'est assez impressionnant quand on est en ville et qu'on voit qu'ils commencent ça à 13 ans, ça me fait un peu peur. Je vois mon cousin, c'est comme ça, ça m'a fait un peu peur.
Et tu t'es senti en décalage?
Ah, en décalage total. Moi à 13 ans, je jouais à Pokémon, hein, j'étais content. Ah ouais, mais eux c'est un autre monde. C'est pour ça que je regrette pas du tout d'être ici, j'ai l'impression que j'ai bien vécu mon enfance. J'ai été enfant longtemps.
Partir ou rester dans la diagonale du vide, voilà la question que chaque jeune se pose en zone rurale.
Alors pour la plupart, oui, mais pas pour tous. Certains jeunes ont la chance d'avoir un rêve professionnel en adéquation avec leur territoire. Ils n'auront donc pas forcément besoin de partir de chez eux. Ils peuvent s'orienter facilement après le brevet vers des CAP ou des bacs pro qui existent près de chez eux. Et c'est le cas de Luna, 17 ans, un physique de mannequin. Par texto, elle me donne rendez-vous sur le chemin blanc à la Coudray, à 45 minutes en voiture d'Argenton-sur-Creuse.
Nous sommes à Douadic, à la Coudray et plus précisément. Alors à la Coudray, il n'y a pas de commerce, il faut se déplacer sur Douadic. Il y a un tabac, et une école, une église, un cimetière. Et voilà. Il y a deux fermes élevage de chèvres et il y a pas loin un élevage porcin. Il y a beaucoup de champs.
Et donc là, on est en train de marcher sur un petit chemin de terre entre deux départementales.
Oui, on est souvent tranquille, il n'y a personne qui vient nous déranger.
Tu viens de toi-même souvent te balader, oui. En fait
Oui, oui, je prends mes chiens ou mon petit frère et on va se promener, on discute de tout.
Ta maison, elle est derrière, c'est
oui.
ça
Oui, oui. Ça fait 11 ans que j'habite là. Je suis en CAP agricole. Je suis la seule fille dans ma classe. Donc il y a souvent des mots des garçons qui disent que je suis une fille, je peux pas faire ça. Enfin, ils me disent que ma place, c'est dans cette secrétaire, quoi. Enfin, je suis une mauviette, quoi. Alors que quand je dois, par exemple, tuer une dinde, là, ils se taisent et ils disent rien. Je le fais et pas eux. Donc, je sais pas parce que je suis une fille que je peux pas mettre mes bottes et ma cotte et aller travailler tous les matins à 5h du matin.
Comment t'en es venue à choisir un CAP agriculture?
C'est qu'on a récupéré une propriété par rapport à mon père qui était agriculteur. Mon papa est décédé quand j'avais 9 ans. Il aimait beaucoup l'alcool.
Tu veux dire que c'est l'alcool qui l'a tué?
Voilà, c'est ça. Suite à ça, j'ai voulu l'honorer forcément. Et en récupérant cette ferme, et la remettre à neuf, quoi. Continuer le chemin qu'il avait commencé à parcourir.
Tu as récupéré en héritage, en fait, cette ferme, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai peu de souvenirs. Je m'en rappelle, je comptais les veaux dans les champs pour savoir s'il en manquait ou pas. Mais c'est super beau d'être agriculteur. Même si des fois je voyais que c'était dur et qu'il poussait des cris. Mais on sait que si on aime quelque chose, on le fera jusqu'au bout.
Là en ce moment, tu es en stage, c'est ça? Parce que c'est des formations qui sont professionnalisantes, les CAP. Donc vous êtes moitié à l'école, moitié en stage.
Voilà, je suis apprentie dans un élevage de gibier. Donc ce qui consiste à recevoir les poussins au bout d'un jour, jusqu'à la vente pour la chasse. J'ai toujours aimé les volatiles. Tout ce qui est animaux à plumes, j'ai toujours apprécié. Mon patron dit que j'ai un don, apparemment, pour approcher un faisan, parce que lui n'y arrive pas et moi, ils viennent vers moi. Et lui ne comprend pas. J'avais une poule que j'avais éduquée et elle me suivait partout. J'ai toujours aimé. C'est super intelligent, un volatile. Bah oui, on dit que c'est qu'un morceau de viande, mais alors que c'est pas du tout ça.
Qu'est-ce que tes profs, ils en disaient de ton projet professionnel quand tu étais au collège?
Ils m'ont dit que j'avais les capacités, que j'avais beaucoup de chance d'avoir eu un héritage et qu'il n'y a pas tous les jeunes qui commencent par ça. Plus les jours passent et plus l'hectare devient cher.
En fait, là où tu es une chanceuse, c'est que quelque part, ton rêve, il est en adéquation avec le territoire dans lequel tu vis. Et quelque part, c'est une chance parce que tu t'es jamais posé la question de savoir est-ce que je dois partir d'ici. C'est-à-dire que tu peux à la fois poursuivre ton rêve professionnel tout en restant sur ton territoire.
Oui.
Les jeunes qui grandissent en zone rurale n'ont pas tous cette chance. La très grande majorité doit inévitablement partir de la maison pour faire des études.
Et oui, et même parfois dès le collège, les formations spécialisées sont rares sur le territoire. Et les universités les plus proches sont à Limoges, Poitiers ou Tours, donc à plus d'une heure de voiture d'Argenton-sur-Creuse. La mobilité est donc obligatoire pour celui qui veut aller en fac de droit, comme pour celui qui veut faire un CAP petite enfance, un bac pro sur les métiers de la mode par exemple, ou encore BTS de communication. Alors parfois il suffit d'aller juste à Châteauroux, mais c'est déjà pour beaucoup toute une organisation familiale et puis ça coûte cher. C'est en tout cas ce que racontent les élèves de terminale littéraire du lycée Rollinat d'Argenton-sur-Creuse.
Personnellement, je sais que même si j'aime beaucoup là où je vis et que j'aimerais, s'il y avait des facs partout dans le Berry, faire mes études dans le Berry, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas tant de formation que ça, surtout vu ce que je souhaite faire. Je veux faire de l'ethnologie, c'est pas ce qu'il y a de plus représenté dans les facs. Du coup, je vais être obligé de bouger.
Elles sont les universités d'ethnologie par ici?
Alors, il n'y en a pas beaucoup. Moi, celle que j'ai trouvée, il y avait Paris, il y avait Toulouse, Montpellier, Marseille. Donc, c'est vraiment que des très, très grandes villes. Et je ne suis pas d'une famille qui a énormément de moyens. Mon père est ouvrier, ma mère ne peut plus travailler à cause d'une maladie. J'ai déjà dû bosser comme ma sœur chez Kramer, qui est une petite usine à côté. J'ai des amis qui peuvent m'héberger dans certaines villes, justement, comme à Montpellier, notamment, et à Paris. Mais il y a d'autres villes, notamment, où je ne pourrais pas.
Donc, en fait, tu vas faire des choix aussi par défaut?
Complètement.
Moi, du coup, je veux partir à Poitiers pour faire un portail droit psycho.
Matériellement, est-ce que pour toi, ça va être compliqué d'organiser ce départ?
Oui, ça fait longtemps que je le prépare. Là, j'ai pas eu de vacances. Je me levais tous les jours à 7h, 6h30, 7h pour avoir de l'argent parce que du coup, je suis animatrice. Comme ça, ça me permet d'avoir quand même des économies.
Tes parents, ils font quoi comme travail?
Ma mère, elle travaille pas et mon père, il est infirmier libéral. Je dépends énormément de lui financièrement. La conduite accompagnée, le permis, le BAFA, mais même les affaires scolaires, la cantine, tout. Mais je dois tout à mon père. Enfin, mes parents, ils sont endettés maintenant. Je dois prendre le relais et c'est normal, je trouve. Du coup, je travaille. Enfin,
tu mets de l'argent de côté en fait pour payer ton appartement là-bas.
Oui, c'est ça. Poitiers, c'est une grande ville et j'ai peur de pas trouver mes repères. J'ai peur de me dire non, mais c'est bon, c'est trop grand, c'est trop. Je suis là depuis que je suis née, j'ai été à Aiguillon, c'est encore plus petit qu'Argenton, enfin, j'ai été là tout le temps, j'ai jamais bougé, enfin, j'ai passé quoi, une après-midi à Tours, j'ai jamais visité Limoges, le cœur de Limoges je connais pas, le cœur de Tours je connais à peine, Poitiers je connais vite fait, mais toutes les grandes villes, moi je suis jamais allée, je suis jamais allée à Paris, je suis toujours restée là, du coup bah, je me dis ouais ça va être compliqué quand même au début.
Catherine Papuchon, proviseure de la cité scolaire Rollina Argenton-sur-Creuse. En ce qui concerne le lycée, la plus grosse difficulté, c'est de les amener à ne pas accéder à une formation, ce que M. Blanquer appelle la formation mobilette, c'est-à-dire la formation de proximité, et bien leur construire un horizon ambitieux. Alors ici, on a le centre d'études supérieures à Châteauroux, on a un IUT, etc., qui leur permettent de construire des formations relativement courtes, mais qui sont limités sur l'offre. Et après, l'université de rattachement, c'est Tours ou Orléans, ils n'y vont pas, ils vont plutôt sur Limoges, parce qu'il est plus accessible. Et peu d'élèves, finalement, choisissent des parcours ambitieux. Trop peu, en tout cas. Ma grosse crainte, ça fait pas très longtemps que je suis dans cet établissement, c'est de voir que nos élèves réussissent bien au niveau du baccalauréat, 80% de résultats positifs au baccalauréat, mais que derrière... Je pense que vraiment, nos élèves ne s'autorisent pas à franchir le pas d'études supérieures longues. Ils s'autocensurent. C'est pas pour eux. Je pense que c'est vraiment la phrase qui pourrait résumer la situation. C'est pas pour eux. Et finalement, c'est les élèves qui viennent d'un milieu social ouvert, performant, un peu plus performant économiquement, qui tirent leur épingle du jeu.
Et donc, ça constitue une minorité de vos élèves?
Une minorité de nos élèves, je dirais 20%. Et moi, j'ai très, très peur d'arriver à des établissements en zone rurale qui deviennent des espèces de ghettos, finalement, qui ne permettent pas aux élèves de s'en sortir. Et je crois que là, on passe à côté de notre mission.
Donc, en fait, c'est une inégalité sociale qui se couple à une inégalité territoriale. Donc, pour certains élèves, pour ceux qui viennent des milieux les plus populaires, c'est la double peine, ici.
Tout à fait. Bah, ici, comme dans beaucoup de zones rurales, hein, parce que je crois que c'est le cas de tous les territoires ruraux en France. Et je pense que, oui, ça s'accentue et ça s'aggrave. Moi, c'est une vraie préoccupation.
Entre choisir la formation de leur rêve ou rester sur le territoire, qu'est-ce qu'ils choisissent, vos élèves?
La plupart choisissent de rester sur le territoire. Et moi, c'est une vraie question, parce que je vous dis, je viens d'un milieu rural, et moi, j'ai quitté chez moi. Et moi, je suis partie. Et je pense que c'est important de partir, parce qu'on n'a pas le bonheur à la porte de chez soi. Enfin, il faut construire sa vie.
Donc la mobilité fait partie de leur parcours de vie, en fait.
La mobilité fait partie de leur parcours de vie, et je crois que le gros travail, c'est aussi accompagner les familles vers l'autonomie de leurs enfants. Ils ont très très peur de voir leurs enfants partir de la maison. De fait que eux pour la plupart, n'ont pas fait d'études non plus. Donc, laisser partir leur enfant, c'est permettre à leur enfant d'avoir un niveau de formation ou de qualification supérieur à ce qu'eux-mêmes ils ont. Et ce n'est pas si simple sur le plan familial d'accepter que son enfant ait un niveau de qualification supérieur.
Ça, c'est votre analyse. Mais quels sont leurs mots ?
Leurs mots, oh ben non, il ne va pas partir de la maison. Oh ben non, il va rester là. Moi, j'ai pas envie, il sera bien à Argenton, lycée professionnel. Et puis, oh non, puis il va faire un apprentissage, comme ça, je vais trouver un patron à côté de la maison, il va pas partir maintenant, il est trop jeune. Moi, je trouve ça très dommage, parce que j'ai toujours pensé qu'on faisait pas les enfants pour les garder chez soi. Et c'est difficile de convaincre les parents. C'est notre travail au quotidien.
Alice Milo, les jeunes que vous avez rencontrés, ils ont presque tous donc des freins financiers, manque d'argent. Alors comment y répondre ?
Alors la plupart des établissements scolaires de France proposent des rendez-vous avec des assistantes sociales hein, qui peuvent recevoir les familles et leur proposer des montages financiers en sollicitant tout un tas d'aides que souvent d'ailleurs les familles ignorent. Par ailleurs, le lycée Rollina essaye de pallier les autres freins. Il propose aussi à ses élèves des entretiens avec une conseillère d'orientation et les enseignants eux-mêmes font également de nombreuses sorties avec leurs élèves. Je les ai d'ailleurs accompagnés voir une pièce de théâtre à Châteauroux, à Equinox. C'est une scène nationale. Donc on pourrait se dire que bon, finalement, ces jeunes ne sont pas non plus dans un désert culturel. Mais là encore, c'est quand même toute une logistique d'emmener 30 élèves voir un spectacle, une logistique et puis des frais.
On ne parle jamais quand même de ces jeunes-là dans les médias.
Eh bien non, peu d'enquêtes ont été réalisées jusqu'à ce jour à ce sujet. Les jeunes des zones rurales n'intéressent ni les médias, ni les politiques. Il est vrai que les jeunes de banlieue, de cité, ont polarisé toutes les attentions depuis les années 90 à cause des violences et de la proximité avec les pouvoirs. Ils ont obtenu, à juste titre d'ailleurs, des politiques publiques dédiées. Mais les jeunes des zones périphériques, eux, restent invisibles. Leur contour est flou, ils sont résignés, ne font pas de vagues, et c'est en tout cas le point de vue de Salomé Berlioz. Elle vient de publier Les Invisibles de la République et elle est présidente de l'association Chemin d'Avenir.
Quand on dit 60% des jeunes français grandissent dans ces territoires, ça paraît surprenant. Quand on dit 60% des jeunes français cumulent les obstacles au cours de leur parcours, ça paraît aussi surprenant. Et en fait, ça veut dire qu'il faut aussi changer notre carte mentale des inégalités. On a du mal à les traiter comme des jeunes cumulant des obstacles réels. Et pourtant, c'est vrai. Ces obstacles, ils sont là. Ces obstacles, ils s'additionnent et ils font du parcours de ces jeunes un parcours du combattant. C'est le manque d'informations, ce sont les questions de mobilité et l'assignation à résidence, c'est la question de la confiance en soi et de l'autocensure, c'est l'enjeu du manque parfois d'opportunités académiques, culturelles, professionnelles à proximité immédiate, c'est la question de la fracture digitale et on voit bien que l'accumulation de ces obstacles fait que le jeune qui va grandir dans un village de Saône-et-Loire, il n'aura pas les mêmes chances de départ que le jeune qui grandit dans le cœur de Lyon ou dans le cœur de Lille. Si vous grandissez à Lyon et que tout à coup vous découvrez ce que c'est que le métier d'ingénieur, vous allez en parler dans votre établissement, on vous orientera assez facilement vers une prépa parce qu'en fait une prépa, il y en aura une à 10 minutes de chez vous et que les professeurs ont l'habitude d'orienter des élèves en prépa ingénieur dans cette ville. Vous pourrez aller dans un salon de l'orientation qui aura sans doute lieu dans votre quartier ou à deux quartiers de là. Vous pourrez aussi échanger avec des étudiants qui grandissent dans votre ville et qui font les études que vous rêvez de faire. Vous pourrez même échanger avec des ingénieurs parce qu'il en existe à côté de chez vous. Et puis ensuite, donc, vous irez en prépa et vous pourrez aller dans une école sans forcément bouger de chez vous. Si vous grandissez dans un village des Vosges et que vous découvrez ce que c'est que le métier d'ingénieur, vous ne pourrez pas forcément parler à des étudiants qui font ces études-là, parce qu'il n'y en aura pas forcément. Vous ne pourrez pas échanger avec des ingénieurs, parce qu'ils seront rares sur votre territoire et que vous ne les connaîtrez pas. Et puis ensuite, pour envisager d'aller faire ces études, ça supposera de partir de chez vous. Donc pour vos parents, ce sera plus cher, ce sera plus compliqué. Si partir de chez soi, ça suppose pour les parents un vrai investissement financier, on peut ressentir une forme de culpabilité. En tout cas, on ne le fait pas d'un claquement de doigts, comme quand on habite à Paris et que toutes les formations sont à proximité immédiate. Et puis, pour ces jeunes-là, il peut aussi y avoir une forme de sentiment de trahison à l'idée de partir, parce qu'on ne le fait pas, parce que ses amis ne le font pas forcément, parce que ses frères et sœurs ne l'ont pas fait. Donc là, c'est un frein psychologique en plus qui vient s'ajouter à des freins matériels. on peut avoir l'impression très forte de ne pas être autorisé à rêver d'une formation, de ne pas être autorisé à envisager un métier. Ça peut sembler tout simplement impossible.
Impossible, mais pas pour tous. Certains jeunes parviennent à vaincre l'autocensure et se lancent.
Absolument, et c'est le cas de Laura. Elle a 18 ans, elle est étudiante en droit dans la prestigieuse université Paris 2 Panthéon Assas. Elle n'a pas grandi dans la diagonale du vide, mais dans la lointaine région parisienne. Et pourtant, les obstacles qu'elle a rencontrés sont parfois très similaires à ceux qui vivent en rase campagne. J'ai retrouvé Laura à Assas, au cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, à deux pas du Sénat.
Donc là, on a le grand amphithéâtre d'Assas, qui est connu et qu'on a déjà vu dans plusieurs films, qui est connu du coup. Et on a de l'autre côté la cafétéria du Crous.
Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez franchi ces portes ?
Très impressionnée, parce que c'est grand. Je me suis dit que c'était possible en fait, que c'était pas la chose lointaine, parisienne, c'était pas vrai, que ça pouvait être à la portée de tout le monde.
Vous, c'est quoi votre histoire en fait ?
Moi, je viens d'une petite ville que j'adore, dans le Val d'Oise, qui s'appelle Osny, qui est aux portes du Vexin, qui est à peu près à 1h30 de Paris en transport en commun. Donc j'ai fait mon collège, mon lycée dans cette ville, et j'avais envie d'aller à Assas parce que c'était... le mythe de la plus grande fac juridique de France, et parce que en fait, j'hésitais entre les sciences politiques et le droit. Et c'est pour ça que j'avais choisi Assas et que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de pouvoir y aller. Tout premier jour, j'arrivais, je ne connaissais pas du tout la fac. J'arrive, je m'assois en amphithéâtre pour la présentation et une jeune fille vient s'asseoir à côté de moi et me demande « Salut, tu viens d'où ?»« Bah, de région parisienne, mais pas de Paris. » Et elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah !» et elle s'est levée. Voilà, bienvenue à Assas. Et c'est ça qui est fou encore aujourd'hui, c'est de voir que pour certains... on vient pas de Paris, donc on n'est pas intéressant. Je me suis dit, oulala, donc en fait, quand on m'a dit que c'était pas pour moi, peut-être que c'était vrai, en fait, c'était pas pour moi. Et je me suis dit, non, Laura, pense-y plus, arrête. Et après, j'ai rencontré des gens géniaux, je me suis fait plein d'amis, et au final, on voit que c'est pas représentatif du tout de la fac. Les professeurs, jamais, n'ont stigmatisé un élève parce qu'il venait de telle ou telle ville ou parce qu'il pensait telle ou telle chose, pas du tout.
Parce que là, concrètement, vous vous organisez comment, en fait ?
Comme c'est quand même loin, il faut 2 heures aller, 2 heures retour, ça fait quand même un certain temps dans la journée. Du coup, j'ai essayé de regrouper mes travaux dirigés au maximum pour avoir des journées entières de libre et être chez moi pour travailler. C'est vraiment des choses qui me tenaient à cœur, de rester ancrée dans mon territoire et dans ma ville.
Financièrement, vous auriez pu loger à Paris ?
Non, parce que en fait, justement, on est dans un entre-deux où je peux pas avoir les bourses du Crous ou quoi.
Parce que vos parents gagnent trop d'argent,
entre guillemets. Voilà, gagnent trop, entre guillemets. Mais en même temps, j'ai essayé de regarder des logements ou ce genre de choses, et c'est très cher. C'est mettre 1000 euros par mois dans un logement, c'est compliqué, parce qu'après, il faut payer tout ce qu'il y a autour. Pour l'instant, ça va, c'est un rythme à prendre, ça c'est sûr, mais au final, pendant mon trajet, je lis, je réponds à des mails quand j'ai des mails auxquels il faut que je réponde, je travaille, je revise. Donc au final, au lieu de travailler devant son bureau, on mettra un peu plus de temps, ça bougera un peu plus, notre brouillon ressemblera un peu moins à quelque chose, mais c'est pas grave, quoi.
Ça, c'est vos arguments pour dire « faites-le, allez-y, ne vous mettez pas des freins ».
Mais oui, il ne faut pas se mettre de freins. Il ne faut pas se dire « c'est trop difficile pour moi » ou « j'y arriverai pas ». Mais allez-y, ayez de l'ambition, essayez. Ça ne coûte rien d'essayer.
Mais est-ce que ça veut dire que Paris, ça doit être une finalité ?
Mais non, on doit avoir le choix. Un élève qui a envie d'aller à la faculté de Cergy, de Rennes, de Lyon, de Nantes, n'importe où, ce qui compte, c'est son projet et ce qu'il veut en faire. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que les élèves aient le choix. Pas « bon, je sais faire ça ». J'aime ça, mais. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, et donc aller vers le choix.
Il est 15h, vous avez cours, donc oui. Je vous laisse aller au grand amphi.
Merci beaucoup.
Bon cours alors.
Merci.
Avoir le choix de son orientation, de son métier, de son lieu de vie, c'est le défi des jeunes qui vivent en zone rurale. C'est notre sujet aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Alice Milo, il n'existe pas d'aide spécifique pour ces jeunes de la France périphérique.
Non, en tout cas, pas d'aide publique dédiée. En revanche, une association, oui. Chemin d'avenir, fondée il y a 3 ans par Salomé Berlioz. Une initiative inspirée par son propre parcours. Cette jeune conseillère politique de 29 ans a grandi dans un hameau de 180 habitant dans l'Allier, rien ne la prédestinait à entrer à Sciences Po Paris, puis à l'Élysée.
Quand, venant de Lurcy-Lévis dans l'Allier, j'arrive à Nevers dans la Nièvre, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas avoir les codes, de ne pas m'habiller comme il faut, de ne pas avoir lu les bons livres, de ne pas avoir les bonnes références par rapport aux jeunes de mon lycée qui avaient grandi, eux, dans le centre de Nevers. Et c'était le même sentiment que j'éprouvais, moi, en arrivant à Paris, mais en plus, je suis arrivée et j'ai été plongée très rapidement dans un milieu qui était assez élitiste, qui était celui des classes préparatoires aux grandes écoles, puis qui était celui de Sciences Po. Et donc, j'hallucinais complètement parce que, pour le coup, j'avais l'impression de ne pas m'habiller de la bonne façon. J'avais l'impression que tous les jeunes que, tout à coup, je côtoyais portaient des costumes quand c'était des jeunes hommes ou des vêtements de marque quand c'était des jeunes filles. Que, évidemment, aller à Singapour ou aller aux États-Unis, pour eux, ça allait de soi, alors que moi, difficilement, il m'était arrivé d'aller passer un week-end en Espagne ou en Angleterre. Le fait d'avoir, beaucoup de choses à rattraper. Et ce sentiment-là, il fait perdre du temps, il fait perdre de l'énergie. Et évidemment, ça peut être déterminant dans le parcours d'un jeune. Quand on voit tous les obstacles que ces jeunes rencontrent, faire peser toute la responsabilité sur l'éducation nationale, c'est un peu fou. C'est-à-dire que l'éducation nationale, elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et elle ne peut pas forcément lutter en parallèle contre les questions de mobilité, contre le manque d'information, contre les questions financières, sur le manque de confiance en soi de ces jeunes, alors qu'elle doit déjà transmettre des savoirs fondamentaux et former ses collégiens et ses lycéens. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité fonder notre association Chemin d'Avenir il y a bientôt 3 ans. C'est parce que en cherchant, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de structure 100% dédiée aux jeunes de la France périphérique. Chemin d'Avenir informe, accompagne et promeut, met en lumière les collégiens, lycéens et étudiants de ces territoires. Cette année, on est présent dans 5 académies et l'année prochaine, dans 7. Et cette année, on accompagne 500 jeunes et l'année prochaine, on en accompagnera 1000. Donc, chaque jeune de l'association a un parrain qui lui est 100% dédié pendant 18 mois au moins. Donc, je vous donne un exemple, une jeune fille qui rêve de devenir avocate dans le Puy-de-Dôme, qu'on accompagne depuis plus de 2 ans maintenant, et qui a une marraine qui a grandi à Hyères, à côté de Toulon, qui a fait une partie de ses études à Aix-en-Provence, une autre partie à Paris, qui lui donne confiance en elle, qui lui prodigue des conseils, qui lui permet d'échanger avec des étudiants et des professionnels du milieu du droit. Et cette jeune fille qui rêvait de devenir avocate, mais qui ne connaissait pas d'avocat à côté de chez elle, qui ne savait pas ce que c'était que ses études, petit à petit découvre, 1, que c'est possible, 2, que après tout, ce ne sera peut-être pas avocate, mais peut-être magistrate, et épauler, encourager, challenger, prend confiance en elle dans la création de son parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Ça, c'est le parrainage individuel. Ça marche extrêmement bien. On ne les accompagne pas du tout uniquement vers des études supérieures. On a beaucoup, beaucoup de jeunes filleules qui veulent reprendre l'exploitation agricole de leurs parents, qui veulent devenir artisans, qui veulent être ostéopathe équin ou qui ont envie de tenir un centre équestre. C'est même une majorité des jeunes qu'on accompagne. Et dans ces cas-là, ils peuvent tout à fait choisir de le faire sur leur territoire. Et d'ailleurs, tant mieux. Enfin, vraiment, l'objectif de l'association n'est surtout, surtout pas de dire tout le monde dans les grandes métropoles et tout le monde dans les grandes écoles. Ce serait un non-sens total. L'objectif, c'est vraiment de dire, il faut être libre de choisir. Pour ça, ça suppose de construire petit à petit son parcours académique, pré-professionnel et citoyen pour être le plus libre et le plus outillé dans ses choix, de façon à ce que ces jeunes-là aient autant de chances de réaliser leur potentiel que leurs camarades des grandes métropoles. Mais il peut aussi se révéler de façon complètement différente.
Alors, à l'occasion d'un entretien d'embauche, est-ce qu'il faut mettre en avant le fait qu'on vient de la campagne ou plutôt s'en cacher ?
Alors, quitte à prendre le risque de tomber sur un recruteur snob, tout candidat a intérêt à mettre en valeur le territoire dans lequel il a grandi. Cela fait partie de son identité, ça l'a construit et il est porteur de ses traditions. Les terminales littéraires du lycée Rollina d'Argenton-sur-Creuse l'ont parfaitement compris et défendent bien leur chère Berry natale.
Moi, depuis que je suis tout petit, je fais de la pousse d'épine, qui est un alcool berrichon pur, avec mon grand-père. Et on fait les choses nous-mêmes, on fait d'autres, pareil, on fait du pinot nous-mêmes. Ça tombe beaucoup autour de l'alcool dans le Berry. On a fabriqué ce qu'on va consommer. C'est pas directement aller dans un rayon de supermarché et le prendre. Il y a plein de choses comme ça, de petites recettes, ou même de savoirs et de terroirs qui sont, pour moi,
purement liée à la campagne, à là où on est, là où on vit, et que bah, les grandes villes n'ont pas, et que c'est notre petit savoir à nous. Et donc il y a des gens qui voient un petit peu d'un regard assez méprisant la campagne, ou qui ont un petit peu honte de venir des milieux ruraux. Moi, j'ai plutôt une fierté à ça.
Je sais qu'il y en a qui parlent le patois ici dans cette salle. Et c'est un peu comme une petite fierté, parce que c'est nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents qui nous parlaient comme ça. Et donc, du coup, ça fait vraiment partie de notre identité culturelle. Et je pense que ce serait intéressant de la partager avec d'autres gens plus tard, si je bouge de ma diagonale du vide, justement.
Avec qui tu le parles, toi ?
Souvent mes grands-parents. Eux, ils ont toujours appris à parler comme ça, donc ils ont toujours parlé comme ça. Ma mère parle beaucoup en patois. La chiot, elle mange d'aubiette. La chèvre, elle mange des betteraves. Enfin voilà, c'est des petits mots comme ça qui changent un petit peu et qui sont drôles. C'est un parler beaucoup dans la bouche. On dirait des fois qu'on a une patate chaude quand on parle le patois. Donc c'est drôle.
Pour toi, ça, c'est un atout ?
Bah, je sais que le fait de parler patois berrichon, ça m'a aidé à parler beaucoup plus facilement anglais. Parce qu'il y a des sons qui étaient plus faciles à faire, ce qui ressemblait beaucoup à certains mots. Donc ça m'a beaucoup aidé, oui. Même au niveau manuel, j'ai appris à faire beaucoup de choses. J'ai travaillé avec mes grands-parents dans les champs. Ça fait très campagnard ce que je dis, mais ils m'ont appris à faire beaucoup de choses, à réparer des voitures, des tracteurs, à m'occuper des bêtes, justement. Bah, je pense qu'après, on pourra toujours le ressortir quelque part. Et ça peut toujours faire une anecdote pour les amis, pour plus tard. Ça fait toujours quelque chose en plus, forcément. Je ne dis pas que ça va m'être utile, forcément, pour... dans ma vie professionnelle, mais je sais pas, ça m'apporte un petit plus quand même, qui me rend confiante dans la vie de tous les jours.
Une fois que le diplôme sera en poche, vous envisagez de revenir vivre dans votre région ou pas ?
Non. Non. Non, je reviens pas ici, c'est mort. C'est sympa quand on est jeune, mais pour travailler, c'est mort. Surtout si moi, je veux... Après, ça peut être possible. En vrai, ça peut être possible, parce que si je veux travailler dans l'événementiel et créer un festival, vu le nombre de champs qu'il y a ici, je pense que je trouverais pas trop de problèmes pour trouver un emplacement pour un festival. Après, pour d'autres choses, si je travaille juste dans la communication et dans l'événementiel, comme par exemple travailler avec la mairie, j'ai fait un stage avec la mairie de Châteauroux. C'est pas fameux ce qu'ils organisent, alors que si on... Le même travail, je pense, à Lyon ou même à Tours, si on reste dans la région, même à Tours, ça doit être quand même plus intéressant. Parce qu'il y a plein d'autres choses à organiser que le salon du bonheur ou des choses comme ça.
Moi, je pense que, même si c'est pas forcément mon cas, il y aura quand même pas mal de personnes qui reviendront. Par exemple, si on est dans le commerce ou quelque chose comme ça, qu'on veut ouvrir une boutique, il n'y a pas énormément de concurrence ici, donc c'est aussi un bon moyen. Je sais pas, enfin, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir, je sais pas, un fast-food, ici, il n'y en a pas, et faut qu'il vienne ici.
En fait, il y a peu d'opportunités d'emploi pour être salarié ici, par contre, il y a plein d'opportunités pour être entrepreneur, c'est voilà. Ça que tu veux dire?
Ouais, exactement. Je pense que, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ferment, on s'en rend compte de plus en plus. Il y a plein de boutiques qui... Enfin, moi, je suis là depuis que je suis tout petit, personnellement, et il y avait beaucoup plus de choses ouvertes avant. Et du coup, bah, il y a plein de choses qui pouvaient être achetées.
Je pense que je partirai au début, mais après, pour si je dois me poser plus dans ma vie, c'est sûr que je reviendrai à la campagne, parce que je regrette rien du tout de mon enfance, c'était vraiment top.
Réinventer la vie et le travail, donc dans la diagonale du vide, ces lycéens y parviendront-ils ? Sauront-ils s'emparer des métiers autour de la transition écologique, par exemple, pour en faire des opportunités ? Eh bien, ça dépendra aussi beaucoup des choix politiques et des moyens financiers qui y seront consacrés. Reportage signé Alice Milo, à la mise en onde et au montage Nicolas Benita. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions et bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour en direct pour une nouvelle émission. À demain les voisins.